Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie, pour évoquer avec elle les titres à la une de l'édition à paraître dans tous les bons kiosques ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence avec le dossier de La Marseillaise. Le 24 février marquera un an de guerre en Ukraine et La Marseillaise est allée à la rencontre d'Ukrainiens réfugiés dans notre région.
Oui, tout à fait. Donc le 24 février, bon, le jour où l'hebdo paraît, marque un an de guerre en Ukraine, donc oui. Guerre provoquée par Vladimir Poutine et la
sbires.
Russie, donc c'est une guerre d'invasion contre un pays souverain. Et donc nous, comme vous le disiez, à la rencontre d'Ukrainiens qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés dans notre région et qui ont été accueillis, notamment à Montpellier et à Nîmes.
Oui.
Et nous revenons sur l'élan de solidarité. Où est-ce qu'on en est un an après, face à cette guerre qui s'enlise?
Oui.
Donc nous avons différents témoignages, notamment nous sommes allés à Anduze, une commune des Cévennes,
oui,
qui a une grande tradition d'accueil et qui fait partie des communes de France qui ont accueilli le plus de réfugiés.
D'accord.
Et donc, pour poursuivre peut-être
oui,
sur notre contenu du vendredi 24, évidemment, la deuxième grosse dominante de l'actualité, ça reste la mobilisation contre la réforme Macron des retraites, hein, une mobilisation qui reste très forte. Hein.
Oui.
Et là, nous avons recueilli le témoignage de travailleurs et d'étudiants,
mm-hmm,
qui vont participer à la journée du mardi 7 mars.
Oui.
Donc le mardi 7 mars, ça va être une grande journée encore de grève et de mobilisation. Et là, le mouvement social va monter encore d'un cran, puisqu'il
mm-hmm
n'est pas entendu par le gouvernement. L'intersyndicale s'est réunie le mardi, donc le 21 février,
oui,
et a redit sa détermination de mettre la France à l'arrêt.
Mm-hmm.
Le lendemain, ça sera le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, qui va être fortement colorée par le mouvement social et la mobilisation contre la retraite, les femmes étant particulièrement impactés, et les organisations de jeunesse seront dans tous ces mouvements, et notamment aussi le 9 mars, où elles auront une journée spécifique de mobilisation,
oui,
pour leurs droits contre la réforme des retraites.
Mmh. Côté politique, La Marseillaise s'arrête sur le projet envisagé par Emmanuel Macron de redécouper 3 ou 4 régions, dont la région Occitanie, et d'ailleurs, Carole Delga est vent debout contre cette
oui
idée.
Alors, ce n'est pas encore un projet officiel. Disons
oui
qu'il y a des ballons d'essai qui sont envoyés par le gouvernement. Il faut savoir que la région Occitanie est née officiellement en 2016, donc c'est une
oui
jeune région. Et là, on a un président de la République qui veut marquer de son empreinte les institutions et avec, a priori, une nouvelle réforme territoriale.
Mmh.
Et donc, nous avons, au-delà de la réaction évidemment de la présidente de la région d'Occitanie, Carole Delga, qui qualifie ce projet de lubie et qui a des mots très durs contre ce projet,
oui,
nous avons aussi recueilli l'avis et l'analyse du politologue Michel Crespi,
oui,
pour qui le problème ce n'est pas tant la taille des régions que les compétences et les moyens des régions, si on compare avec l'Espagne notamment, où les régions ont beaucoup plus de moyens et d'autonomie
oui
pour activer des politiques publiques.
Mmh. Pour finir, côté culture, c'est un événement proposé par le Pavillon Populaire de Montpellier qui propose de découvrir la carrière hors du commun de la photographe autrichienne Dora Kalus.
Oui, alors Dora Kalus, elle était très connue à l'époque, elle est née en 1881,
oui.
Elle est décédée en 1963, et c'est la première femme à ouvrir, par exemple, son propre studio de portraits à Vienne en 1907.
Ouais.
Et elle a un parcours, on va dire, hors du commun. Cette exposition qui est proposée donc au public par le pavillon populaire de Montpellier, elle est d'un accès complètement gratuit, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut y aller vraiment et on peut y retourner. Elle s'intitule « La surface et la chair ». Alors c'est un titre qui peut sembler énigmatique, sauf que c'est une personne, une photographe, une artiste, qui a à la fois photographié les stars de l'époque, puisqu'elle est allée vivre aussi après Vienne à Paris dans les années 20. Donc que ce soit Joséphine Baker, Maurice Chevalier, tous sont passés devant son objectif. Mais ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, elle est retournée en Autriche et là, elle a photographié le désastre de la guerre et les personnes qui ont été extrêmement touchées et meurtries par la guerre. Et elle a fait aussi des reportages dans les abattoirs après.
Ouais.
Et donc on a la surface et la chair, on comprend mieux le sens de ce titre. Alors ce sont des photos en noir et blanc.
Oui.
Elle se faisait appeler Madame Dora, elle était connue sous ce nom-là. Et donc c'est vraiment une grande découverte de cette photographe femme autrichienne qui a traversé, on va dire, une bonne partie du XXe siècle.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres, chers auditeurs, et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Allez, on commence cette une de la Marseillaise avec le dossier. Le 24 février marquera un an de guerre. Enfin, c'est pas comme ça que la peine Poutine, d'ailleurs. C'est une opération militaire spéciale. Et la Marseillaise est allée à la rencontre d'Ukrainiens réfugiés dans notre région. Et elle revient sur l'élan de solidarité, notamment du côté d'Anduze.
Oui, tout à fait. Donc, ça fera un an que Vladimir Poutine et son armée ont envahi l'Ukraine et depuis mènent une guerre. Alors, bien évidemment, au-delà des enjeux évidemment géopolitiques, géostratégiques, nous sommes attachés aux personnes qui sont victimes de cette guerre et qui ont fui et qui ont été notamment accueillies dans notre région, à Montpellier et à Nîmes. Et parmi les personnes que nous avons rencontrées, c'est une jeune photographe qui s'appelle Yulia Sagan et qui a fui la guerre il y a un an. Mais avant de partir, Yulia Sagan, qui est donc photographe, avant de partir pour Montpellier où elle a été accueillie et puis après elle est allée s'installer à Nîmes, elle a tenu à aller dans une maternité à Kiev sous les bombes pour prendre les enfants qui venaient de naître en photo.
D'accord.
Et donc on a dans le journal une série de ces clichés où on voit les enfants qui viennent de naître, ces petits Ukrainiens qui se prénomment Katia, Grisha, Sacha ou Andrei. Aujourd'hui, ils ont un an.
Ouais.
Et donc, elle nous raconte dans ses images en noir et blanc, elle nous fait passer un message et elle nous explique que le message de ses photos à elle, c'est que rien ne peut arrêter la vie.
Mmh.
Et tant qu'elle continue la vie, il faut garder espoir.
Ouais.
Donc elle nous explique aussi son parcours. Donc elle est partie après avoir tenu à faire ses photos avec son fils de 14 ans.
Oui.
Et ils sont arrivés à Montpellier, ils ont été hébergés par deux familles d'accueil. Et donc elle a toujours des liens avec ses familles, mais comme la vie est plus forte que le reste, évidemment, elle est tombée aussi amoureuse d'un Français.
Oui.
Et aujourd'hui elle partage la vie de ce garçon à Nîmes.
Oui.
Alors elle nous dit que cette guerre, elle est horrible, elle y pense chaque jour, mais elle est heureuse d'avoir fait cette rencontre, hein. Et son avenir aujourd'hui, c'est quoi? Elle téléphone, évidemment, sa famille est restée en Ukraine, hein.
D'accord. D'accord.
Voilà. Donc, elle retente aujourd'hui, Yulia, de se faire une place, hein, de travailler, de faire ce travail photographique dans les salles d'accouchement des cliniques et des maternités. C'était son métier.
Oui.
Mais c'est une spécialité. Elle nous explique que ça n'existe pas en France. Hein. On connaît les albums des enfants une fois qu'ils sont nés, mais pas de photographes dans les salles d'accouchement. Et ces photos, en fait, des bébés qui s'appellent les petits Ukrainiens, tout simplement, ça a donné naissance à une exposition. Elle a déjà été exposée à la Maison des Relations Internationales de Montpellier au mois de janvier, et elle part en tournée en France. Hein. Il va y avoir du côté de Vernon dans l'Eure, en Bretagne en octobre, avec l'ambassade de Roumanie à Paris, en partenariat avec l'UNICEF. Et l'objectif de cette exposition caritative, c'est de récolter des fonds pour acheter du matériel médical à destination justement de l'établissement où elle a fait ses dernières photos chez elle, à Kiev, en Ukraine.
D'accord.
Nous avons aussi, évidemment, nous sommes allés à la rencontre, ça nous a beaucoup intrigué, mais en fait, c'est pas du tout intriguant parce qu'il y a une tradition dans les Cévennes d'accueil. Hein. Ça a toujours été une terre d'accueil, une terre d'asile, les Cévennes. Et à Anduze, qui est une petite commune, hein, Anduze, hein, en fait, en mai 2022, il y a 25 Ukrainiens qui ont fui la guerre et qui ont été hébergés dans cette commune.
Oui.
Et la maire d'Anduze, Geneviève Blanc, nous explique comment s'est déroulé cet accueil. Hein. Il fallait quand même... Il y a eu un élan dans les familles. Et puis, il y a eu, par exemple, une famille de 10 enfants, hein, qui a été accueillie.
Oui.
Donc, qui ont été hébergés dans une maison spécifique. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, à Anduze, il reste 23 personnes.
Oui.
Il y a, par exemple, parmi eux, un couple d'artistes qui sont logés sur la commune de La Salle, hein, qui a rejoint Anduze récemment et qui fait son parcours aussi d'intégration, on va dire. Hein, ils sont en stage intensif pour apprendre le français.
Ouais.
Et ils sont obligés, eux, de penser leur avenir et leur futur professionnel parce que, évidemment, personne ne sait combien de temps va durer cette guerre.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui pèse énormément, notamment dans l'élan de solidarité. C'est vrai qu'il y a eu un véritable élan de solidarité, mais il ne faut pas non plus tout peindre en rose. Ce n'est pas facile. Il y a par exemple sur Bagnols-sur-Cèze un couple franco-ukrainien qui a eu beaucoup de mal, par exemple, et c'est quelque chose de très choquant, d'ouvrir un compte.
Oui.
Dans une banque. Ils ont fait le tour des banques pour pouvoir déposer des dons.
Oui. Ils
ont perdu comme ça plusieurs centaines d'euros parce que les réponses des banques, c'est on ne veut pas être partie prenante de ce conflit.
C'est pas vrai.
Semble hallucinant.
D'accord.
Donc oui, on a été extrêmement surpris et choqués. Donc on rend compte aussi de ça. Et nous avons aussi l'interview de Mitya Fedotenko, qu'on connaît bien à Divergence à la Marseillaise, puisque c'est un chorégraphe, un danseur et chorégraphe, qui lui est installé à Montpellier depuis une vingtaine d'années, qui était parti, qui avait fait le choix de quitter la Russie parce qu'en tant qu'artiste, il n'y a pas de liberté vraiment, et ce n'est pas du tout une démocratie. Il faut savoir que Poutine est au pouvoir depuis 28 ans.
Et oui.
Donc voilà. Et donc Mitya nous raconte aussi comment il ressent cette guerre depuis un an, les difficultés qu'il y a, puisqu'il est de nationalité russe, il est russo-ukrainien, puisqu'une partie de sa famille est d'origine ukrainienne, et on sent à travers ce témoignage tout le tragique de fait aux hommes et aux femmes, aux prises avec cette guerre, et le mot qui revient, c'est il faut vraiment garder les liens, il faut vraiment être, toujours dans la création aussi, puisqu'il parle à sa place d'artiste. Et donc, nous avons évidemment toute une série de témoignages. On a voulu donner vraiment à l'instant T, un an après le déclenchement de cette guerre par Poutine, le ressenti et le vécu de ces personnes qui sont accueillies ici en France ou qui y vivent depuis longtemps et qui, évidemment, ne veulent qu'une chose, c'est que la guerre s'arrête et que l'Ukraine, évidemment, demeure un pays libre. Donc, et puis, nous avons aussi... Voilà.
Oui, et puis comme le disait Joe Biden en Pologne, il ne tient qu'à Poutine d'arrêter cette guerre.
Oui, et on voit bien, parce qu'on va avoir aussi évidemment un article d'analyse sur la situation géopolitique et la stratégie de Poutine, on voit bien qu'il c'est un adepte du révisionnisme historique, puisque pour lui, en fait, il va jusqu'à dire que c'est la Russie qui est agressée, alors que les faits sont clairs et nets, c'est la Russie qui agresse un peuple qui ne demandait rien, ne serait-ce que de vivre simplement et d'être libre. Et donc, c'est ce révisionnisme. Et il y a aussi cette montée, cette escalade de la guerre qui fait qu'on ne peut pas dire aujourd'hui comment l'issue pacifiste peut être atteinte. Oui, mais il faut poser la question.
Et on sent d'ailleurs qu'on retourne dans une guerre froide au travers des deux discours qui se sont passés entre Poutine et Joe Biden. Et en fait, on se rend compte que l'Ukraine pour Poutine, c'est juste un prétexte, en fait.
Oui, et c'est une guerre pour beaucoup d'Ukrainiens. Et voilà. Ça, c'est pour ça que l'analyse géopolitique est importante. Oui. N'a pas débuté le 24 février 2022, mais en 2014. Hein. Donc voilà. Et nous étions, évidemment, on regardait ça, on va le dire, quelque part de loin.
Oui.
Et cette guerre qui est au cœur de l'Europe, la géographie fait que cette guerre est au cœur de l'Europe. Et donc, on ne peut pas être indifférent. Et on le mesure à travers la vie et le destin de ces personnes dont la vie a été fracassée, bouleversée à cause de la guerre.
Oui. Allez, parlons un petit peu retraite maintenant. La mobilisation reste forte et la Marseillaise a recueilli le témoignage de travailleurs et d'étudiants qui participeront à la grande manifestation du mardi 7 mars prochain.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons des témoignages à nouveau. Alors, il faut savoir que d'un point de vue, on va dire, du calendrier, du mouvement social, nous sommes en pleine vacances scolaires encore dans différentes zones, notamment notre zone qui est en vacances. Et donc, c'est pour ça que la date du mardi 7 mars a été proposée il y a déjà 2 semaines par l'intersyndicale qui est très, très unie et assez inédite depuis maintenant une douzaine d'années, ça ne s'était pas vu. Mais j'ai quasi la retraite Macron, qui est donc d'allonger l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, est qualifié de brutal, injuste et d'inutile. Ça, ce sont les termes du dernier communiqué de l'intersyndicale qui s'est réuni donc mardi soir à Paris. Donc, c'est les représentants nationaux de ces 8 syndicats de salariés, représentatifs de tous les salariés donc du pays. Et donc, ils appellent évidemment à ce que le 7 mars soit une journée vraiment de mise à l'arrêt du pays et de toutes les forces vives du pays. Et donc nous avons dans nos colonnes des témoignages, notamment un travailleur sapeur-pompier.
Oui.
Alors lui, il exerce à Villeneuve-les-Avignon dans le Gard et il s'appelle Michael Paul et il explique vraiment la stupéfaction et la colère qui règne dans les rangs des professionnels de la sécurité civile à propos de cette réforme, en vous rappelant que l'espérance de vie chez les pompiers est de 7 années inférieure à la moyenne nationale. Hein. Et donc, il explique, hein, j'ouvre les guillemets, il y a un taux important de cancer avec la toxicité des fumées chez les pompiers.
Oui.
Travailler jusqu'à 64 ans avec notre espérance de vie, il ne nous reste que très peu d'années après la retraite.
Oui.
La pilule a du mal à passer.
Oui, et puis comment monter à la grande échelle en ayant 64 ans ?
Exactement. Et donc, il dit que le gouvernement nie ce terrible constat. Il rappelle bien évidemment que 80% de leur activité est du secours à la personne et que forcément les corps s'abîment lorsqu'ils font des interventions. Et donc, tout simplement, l'âge de départ à la retraite, s'il est allongé, il va y avoir énormément de professionnels qui seront cassés. Mmh. Et donc, il nous dit que le 7 mars, hein, le nombre de ces professionnels sera important. Que les pompiers vont faire en sorte de se mobiliser, notamment sur leurs jours de repos, pour participer à ce mouvement.
D'accord.
Nous avons aussi un autre témoignage qui est Laurent Blasco. Alors, Laurent Blasco, il a 56 ans. Il est agent technique au lycée Mermoz de Montpellier depuis 26 ans maintenant.
D'accord.
Et donc, lui, il a fait ses calculs. Hein, et d'après son relevé de carrière, nous explique-t-il, il va devoir travailler jusqu'en 2032.
Oui.
Et il dit qu'il aura beaucoup de mal à trouver l'énergie d'aller jusque-là. Alors, il faut savoir que dans les lycées, c'est un fonctionnaire territorial qui travaille dans un lycée. Ils ont un temps de travail annualisé.
Oui.
Donc, durant les cycles de travail en présence des élèves, ils font beaucoup d'heures. On est sur à peu près à 40 heures par semaine avec des horaires décalés.
Mm-hmm.
Donc, il y a des travailleurs dans le lycée qui commencent à 5h30 du matin. Lui, il fait 11h40, 20h. Donc, ça fait des journées.
Oui,
des
c'est
grosses
journées
continues. Ouais. Alors, il est engagé syndicalement, il est co-secrétaire du syndicat CGT au Conseil régional d'Occitanie.
Oui.
Et donc, il peut mesurer toutes les problématiques, nous explique-t-il, d'usure au travail dans ses métiers techniques, hein, entretien des locaux, maintenance, restauration. Et il pointe évidemment une tendance qu'il qualifie de néfaste à la polyvalence.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup d'absentes, beaucoup de turnover.
Eh oui.
Donc déjà, il y a une mauvaise qualité de vie au travail.
D'accord.
Alors, dans ce contexte-là, après 2 ans minimum au travail en plus, il dit c'est non. Donc, au niveau de l'intersyndicale du Conseil régional, puisqu'elle s'est intersyndicale aussi se décline dans tous les lieux de travail, hein,
oui.
Il y a un préavis de grève reconductible qui a été déposé à partir du 7 mars.
Mmh.
Et donc, ils vont faire, nous explique-t-il, des assemblées générales dans les établissements. Et ça sera interprofessionnel, à la fois les agents, les enseignants, les surveillants, mais aussi les élèves, puisque les organisations lycéennes aussi se mobilisent. Et en parlant de ça, nous avons Livia Jean-Pi, qui elle a 22 ans,
mmh.
qui est donc en licence en droit public, et qui elle aussi est vent debout contre la réforme Macron des retraites. Donc elle est aussi engagée, hein, puisqu'elle est porte-parole du syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM, que l'on connaît bien. Et elle nous explique qu'elle digère d'autant moins ce projet de réforme de retraite que la situation de vie des étudiants se dégrade avec l'inflation. Et elle nous rappelle qu'on a encore des centaines d'étudiants qui viennent à l'aide alimentaire tous les 15 jours.
Mmh.
Pour revenir à la réforme des retraites, elle nous explique, voilà, tout simplement, sans redoublement de réorientation, on finit un master à 23 ans, ce qui signifierait partir à la retraite à 66 ans,
mmh.
pour une retraite à taux plein avec 43 annuités.
Oui.
Or, nous rappelle-t-elle, hein, Livia Jean-Pi, la moyenne d'entrée sur le marché du travail est de 27 ans pour un contrat à durée indéterminée.
Oui.
Et donc, elle dit tout simplement, on refuse de travailler jusqu'à la mort.
Mmh.
Et elle rappelle aussi qu'un quart des ouvriers sont déjà décédés à 64 ans.
Mmh.
Donc, on voit dans ces témoignages qu'il y a évidemment une connaissance très précise du contenu de la réforme,
mmh.
contrairement à ce que dit le gouvernement qui parle toujours de pédagogie, et on a encore entendu Emmanuel Macron en appeler hier au bon sens.
Oui,
c'est dire le manque d'arguments quand même.
Mmh.
Et donc, voilà, on rencontre, on va avoir aussi évidemment un article sur les mobilisations plus largement dans la région occidentale.
Mmh.
Avec évidemment tous les rendez-vous de manifestations, en rappelant aussi qu'il y a la journée du 8 mars, le lendemain du 7, hein, donc c'est la journée internationale des droits des femmes, et la réforme des retraites, évidemment à la sauce Macron, c'est aussi une grosse pénalisation pour les femmes qui sont déjà fortement maltraitées au niveau du travail. Par exemple, 15h40, c'est l'horaire qu'il faut noter.
Oui.
C'est à partir de cet horaire-là que les femmes femmes
ne sont plus payées.
Arrêtent d'être payées, ouais. Puisqu'il y a des différences salariales de l'ordre de 28-30% entre un salaire à poste égal un homme ou une femme. Et à la retraite, c'est évidemment, puisque la retraite est le reflet aussi de la vie au travail, de la carrière, c'est 40%. Donc voilà, nous revenons là-dessus. On aura évidemment l'occasion dans les prochains numéros d'avoir encore des articles sur le mouvement social et cette bataille qui n'est pas prête de s'arrêter.
Oui. Allez, la Marseillaise s'arrête aussi sur le projet envisagé par Emmanuel Macron de redécouper 3 ou 4 régions, dont la région Occitanie. On s'en rappelle, c'était sous François Hollande qu'il y avait eu ce rassemblement des régions censé alléger le millefeuille administratif et faire des économies, ce qui a été tout l'inverse.
Oui, alors c'est vrai que pour l'instant ce n'est absolument pas un projet officiel, mais il y a eu des petits ballons d'essai qui ont été lancés, notamment par Stéphane Séjourné. Alors Stéphane Séjourné, c'est le responsable du parti Renaissance. Qui a remplacé d'un point de vue sémantique le parti d'Emmanuel Macron en marche. Hein. Donc forcément, Stéphane Séjourné ne lance pas des propos en l'air quand il s'agit de parler d'une probable ou une future réforme institutionnelle.
Oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait être penser que c'est une sorte de diversion au moment où l'exécutif et le gouvernement et Macron sont pris dans la tempête de la réforme des retraites. Donc Michel Crespi, qui est donc politologue à Montpellier, nous lui avons posé la question. Alors lui, il ne pense pas que ça soit une diversion. Mmh. Il nous dit que ça fait longtemps que Emmanuel Macron a en tête de faire une grande réforme institutionnelle avec cette idée qu'il faut entre guillemets moderniser la France.
Ouais.
Carole Delga, elle, évidemment présidente de la région Occitanie et vent debout. Alors elle a des mots très durs. Hein. Elle dit que vraiment Emmanuel Macron prend des Français pour des gogos. Le problème, je la cite, c'est qu'Emmanuel Macron ne connaît pas la vie des Français. Et donc elle dit que si elle est ouverte bien évidemment au changement, il faut que l'objectif soit d'améliorer la vie des gens. Et elle défend évidemment la région Occitanie, que les 4 grandes régions sont bien identifiées par la population, surtout depuis la crise sanitaire. Alors, pour revenir à ce projet de réforme, il est d'inspiration vraiment sarkozyste, hein, puisque Nicolas Sarkozy avait dans l'idée de créer un conseiller territorial. Donc, c'était aussi remettre en cause les départements. Mmh. On est dans un jeu de dupes quelque part. Hein. Les 3 ou 4 régions qui seraient sur la sellette sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est, voire l'Auvergne-Rhône-Alpes.
Les grandes régions.
Voilà, ce sont les plus grandes régions. Il faut savoir qu'en 2016, au moment de la fusion, c'était donc Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui ont été fusionnés pour devenir la région Occitanie. Il y a des régions qui n'ont pas bougé, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont restées, qui n'ont pas été fusionnées. Il y a d'autres régions, donc comme Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont été constituées. Le problème, c'est que nous explique Michel Crespi, c'est que ce n'est pas tant la taille des régions que leurs compétences.
Mmh.
C'est-à-dire que, par exemple, il nous cite le cas de la Catalogne, hein, qui est une grande région à côté, en Espagne, qui a un budget qui est 20 fois supérieur à celui de l'Occitanie.
Ouais.
Ce que nous dit Crespi, donc le politologue, c'est qu'il faudrait surtout davantage de décentralisation.
Mmh.
Or, c'est quand même quelque chose qui... La décentralisation, il y a eu des grands mouvements de décentralisation, mais il y a quand même... comment dire, la tendance de quand même que l'État reste maître du jeu et ne pas donner l'autonomie aux régions en France. Hein. C'est quand même, notre histoire fait qu'on est très centralisé. On a aussi, évidemment, un argument que nous dit Michel Crespi, c'est que à l'époque, c'est son avis à lui, hein, que le découpage actuel, c'est-à-dire la grande région Occitanie, visait à empêcher le Rassemblement national de s'emparer du Languedoc-Roussillon. Il estime, lui, le politologue, que l'actuel zonage est trop grand. Alors, en titre de comparaison, l'Occitanie, ça fait la taille de l'Autriche. Hein,
oui.
Et il estime que les territoires sont mal desservis et qu'il n'y a pas de cohérence économique ni culturelle, pas grand monde ne parle occitan. Enfin, ça, c'est son avis qui est très tranché. Bien évidemment, la présidente Carole Delga n'est absolument pas d'accord avec cela. Elle dit que la région maintenant très identifié.
Oui.
Ça s'explique peut-être parce qu'il y a une politique aussi régionale et notamment une orientation sur le développement ferroviaire qui fait que il y a quand même la volonté de donner de la cohérence à tout ça. Mais quelle qu'en soit l'analyse, le politologue nous explique que la question, là, on voit bien qu'il y a la volonté du chef de l'État de mettre sa patte sur une réforme territoriale et de faire donc dans la méthode quelque chose qui soit quand même très, on va dire une fois de plus, autoritaire. Cela dit, ça reste encore hypothétique, puisqu'il faut quand même qu'il y ait, d'un point de vue institutionnel, un accord au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui faille qu'on puisse encore modifier la cartographie institutionnelle et des régions en France. Mais c'est quand même symptomatique d'une déconnexion d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de la réalité et des priorités.
Mais on sent en filigrane derrière tout ça, Françoise, aussi la réforme des retraites, pour moi. C'est-à-dire que vous disiez que c'était une volonté à l'époque de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça ne serait pas une idée pour draguer un petit peu la droite pour voter pour cette réforme des retraites aussi?
Mais disons que oui, c'est pas faux que de dire qu'il faut aussi caresser la droite dans le sens du poil, puisqu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut faire passer ses textes à moins d'utiliser le 49.3, mais qui reste quand même limité au texte budgétaire.
Hein,
et c'est bien pour ça que le gouvernement a choisi de faire un budget rectificatif au budget de la sécurité sociale, puisqu'il peut, in fine, si la droite ne vote pas pour le texte, utiliser le 49.3. Et là, évidemment, c'est la roue de secours aujourd'hui du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Eh bien, c'est Éric Ciotti.
Eh oui.
Voilà. Donc, on a bien vu que Aurélien Pradier, qui avait été nommé... on va dire numéro 2 du Parti des Républicains, a été débarqué parce qu'il tient tête sur la réforme des retraites. Et là, une fois de plus, Ciotti est vraiment milite pour l'adoption et pour que ses troupes, entre guillemets, qu'il a beaucoup de mal à tenir et pour cause, hein, la droite LR, parce que toute la droite elle est diverse et elle n'est pas toute dans le parti LR, la droite. Hein.
Oui.
Il y a Horizon, bon, qui fait partie de la majorité, d'accord, mais il y a aussi d'autres voix à droite qui, sur la réforme des retraites, même si c'est c'est leur idéologie et leur proposition, pas non plus servir de marche-pied pour tenir la tête hors de l'eau au gouvernement et à Emmanuel Macron. Mais évidemment, on peut faire le lien, puisque c'est vraiment cette idée du conseiller territorial et du redécoupage du territoire. C'est une idée profondément sarkozyste. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a été auditionné par Emmanuel Macron, comme François Hollande, en pleine bataille des retraites.
Allez, un petit peu de culture dans ce monde de brut, Françoise. C'est un événement proposé par le Pavillon Populaire de Montpellier, donc ça veut dire qu'il est gratuit. La ville de Montpellier donc propose de découvrir la carrière hors du commun de la photographe autrichienne Dora Kalu.
Oui, alors il n'y avait jamais eu de rétrospective consacrée à cette photographe Dora Kalmus, donc qui est née en 1881, donc à la toute fin du 19e siècle, et qui est décédée en 1963. Alors, une personnalité étonnante, un grand nom de la photographie européenne que la France a manqué, nous dit Gilles Morat, qui est le directeur artistique du Pavillon Populaire. Mais cet oubli, il est réparé par Montpellier, puisque l'espace d'art photographique montpelliérain propose jusqu'au 16 avril de découvrir la vie et cette carrière donc hors du commun de celle qui s'est fait connaître à l'époque sous le nom de Madame Dora. Alors elle est née dans une famille juive de la bourgeoisie autrichienne donc en 1881, et elle a débuté sa carrière de photographe à Vienne. C'est la première femme à ouvrir son propre studio de portrait en 1907. Et donc elle va photographier les personnes de son milieu, mais aussi les artistes, les intellectuels, des hommes politiques qui aime son style en fait. Et en fait elle va partir évidemment à Paris, enfin je dis évidemment parce que Paris c'était la grande capitale entre les deux guerres culturelles. Il y avait vraiment un bouillonnement culturel et novateur important. Et donc au milieu des années 20, elle va partir à Paris, elle ouvre un nouveau studio et elle va se spécialiser dans la photographie de mode. Alors là encore, elle a du succès et un succès fulgurant. Alors il va avoir Joséphine Baker, Coco Chanel, Maurice Chevalier qui vont passer devant son objectif et qui vont aussi se presser pour être pris en photo par elle. C'est une popularité incroyable. Ces clichés à l'époque sont publiés dans tous les magazines européens et américains de mode, nous explique Gilles Morat. Mais il va y avoir évidemment la Seconde Guerre mondiale. Elle est juive, victime de l'antisémitisme. Elle est poussée par l'antisémitisme de la guerre et elle va se réfugier en Ardèche. C'est 5 années de guerre où une partie de sa famille et de ses amis vont être persécutés. Elle va changer complètement, nous explique Gilles Morat. À partir de là, vraiment, ses intérêts vont changer. Et en 1948, donc on est vraiment juste après la Seconde Guerre, elle va retourner en Autriche, elle va photographier la misère des réfugiés et toute cette population qui a subi les effrois du nazisme. Elle va réaliser, on est loin de la photo de mode là, elle va réaliser des portraits extrêmement poignants de ces déracinés, et donc elle va aussi entamer une série choc sur les abattoirs parisiens de l'époque. Elle montre les entrailles, des têtes de veaux décapitées, des carcasses dépecées, et donc c'est ce contraste là qui a inspiré le titre de l'exposition La surface et la chair. Et nous explique Gilles Morat, la surface, c'est tout ce qui est consacré à l'aspect physique, on va dire au people, comme on dit, à la mode. Et la chair, c'est son côté vraiment documentariste. C'est la première rétrospective française qui retrace plus de 50 ans de carrière avec des tirages magnifiques qui viennent des musées de Vienne, d'Hambourg, de Berlin, de Paris. Il y a aussi un grand fond documentaire qui illustre le contexte historique. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a les œuvres, et les œuvres sont replacées dans l'histoire, dans le vent de l'histoire, et on peut faire la boucle avec la guerre qui se déroule sous nos yeux en Ukraine, et on voit qu'il y a des photographes, je pense à la jeune photographe qui est réfugiée ici maintenant dans notre région, et qui a pris ses bébés qui venaient de naître. Ça fait partie aussi de laisser des traces, de documenter l'histoire en train de s'écrire sous nos yeux.
Et ben voilà, Françoise, tout est dit.
Oui, 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 tout est dit et tout est à retrouver dans la Marseillaise de vendredi.
Et bien plus encore. En tout cas, merci beaucoup Françoise. Chers auditeurs, on vous encourage bien sûr à vous rendre dans vos kiosques préférés pour vous procurer ce fantastique journal qu'est la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Puis quant à nous, Françoise, on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine.
Avec un grand plaisir.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.